Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous reprenons en compagnie de Stéphane notre étude sur l'évangile de Marc. Bonjour Stéphane.
Bonjour Ian, et nous allons lire aujourd'hui les 6 premiers versets du chapitre 6. Nous verrons ensuite ce que nous pouvons en apprendre.
Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ? » disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours, pour y donner son enseignement. »
Au fur et à mesure que nous avançons dans cet évangile, nous pouvons dire que chaque passage nous réserve des surprises.
C'est vrai, dans ce passage lu, il y a deux choses que je trouve surprenantes. La réaction des gens à l'égard de Jésus et la réaction de Jésus lui-même.
En effet, ce sont les deux choses que Marc veut nous faire remarquer. Regardons-les de plus près. Les gens d'abord. Jésus retourne dans sa région et sa ville natale de Nazareth. Les gens là-bas le connaissent depuis qu'il est tout petit.
Oui, on peut imaginer certaines femmes surprises, dire en le voyant, « Je me rappelle de lui quand il était tout petit, comme il a grandi. »
Mais curieusement, les gens rejettent Jésus. Marc dit qu'ils sont ébahis de son enseignement et de ses miracles, mais il ajoute que Jésus représentait pour eux une occasion de chute.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
C'est une expression trouvée dans le Nouveau Testament qui signifie « trébucher sur un obstacle ». Ou être offensé par quelque chose ou quelqu'un. Ça exprime l'idée que les gens sont choqués par Jésus, qu'ils le rejettent, comme étant ainsi un péché.
Mais pourquoi cette réaction ?
Pour deux raisons, je crois. D'abord, peut-être l'orgueil. Ça devait être difficile d'accepter qu'une personne que l'on a connue comme étant ordinaire, tout à fait quelconque, devienne soudain un homme de Dieu qui enseigne avec autorité et qui accomplit des miracles. Il se le disait entre « Jésus n'est rien d'autre qu'un charpentier, quelqu'un de simple comme nous. Pourquoi devrait-on accepter son autorité ?» L'autre raison, je crois, c'est qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que Jésus est le Messie. Le Messie qu'ils attendaient devait être, selon leur pensée, un prince glorieux qui les libérerait de l'occupant romain. Comment imaginer qu'un simple charpentier de Galilée soit le Messie que toute la nation d'Israël attendait depuis des siècles ? Donc les gens refusaient de croire en lui.
Oui, je comprends. Mais quelle leçon pouvons-nous en tirer ?
C'est un rappel, je crois, que pour être chrétien et donner sa vie à Jésus, il faut comprendre qui il est. Il faut croire qu'il est notre Sauveur, qu'il est venu dans le monde pour donner sa vie pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. Ceux qui refusent d'accepter qui est Jésus n'écouteront jamais ses paroles. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme ces personnes qui s'exclamaient « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Ils disent « Jésus n'était qu'un prophète envoyé par Dieu » ou « Jésus était simplement un homme exceptionnel, mais rien de plus ». Ils ne peuvent pas croire que Dieu lui-même aurait pu devenir en forme humaine. Ils ne comprennent pas qui est Jésus, et de ce fait, ils refusent de croire en lui.
Et donc Jésus demeure pour eux une occasion de chute.
Eh oui. D'ailleurs, quand Jésus fait des reproches à ses disciples, souvent ce n'est pas leur manque de foi qu'il remet en question, mais plutôt le fait qu'ils ne comprennent pas qui il est, ni quelle est sa véritable identité. Par exemple, au chapitre 8, Jésus leur répond « Vous ne comprenez pas encore ? » Le Nouveau Testament a été écrit pour nous expliquer la véritable identité de Jésus. Il existe pour nous révéler ce qu'il a accompli.
Comme nous le disions au début, l'autre élément surprenant dans cette histoire, c'est la réaction de Jésus.
Oui, en effet, Marc révèle que dans la ville dont Jésus était originaire, il ne pouvait accomplir aucun miracle.
Ce qui ne veut pas dire que Jésus était incapable d'en réaliser.
Non, bien sûr. Marc fait remarquer d'ailleurs que Jésus a quand même guéri quelques personnes. Matthieu confirme ce point en racontant la même histoire au chapitre 13 de son évangile. Il dit « Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. »
Oui, et c'est cela qui peut paraître surprenant, car on pourrait se dire « Voilà, ces gens ne croient pas en Jésus, alors c'est l'occasion à saisir pour accomplir des miracles. Pour ceux qui ne croient pas en lui, ne devraient-ils pas plus convaincus s'ils voyaient un miracle spectaculaire se produire ?»
Oui, et je crois qu'il y a là une leçon très importante pour nous. Car avez-vous d'ailleurs remarqué que souvent, lorsque les gens demandent à Jésus de leur montrer un miracle, il le leur refuse. Par exemple, quand les pharisiens ou Hérode lui ont demandé un miracle, il n'en a pas réalisé. Par contre, lorsqu'une personne vient simplement lui demander de l'aide, parce qu'elle est malade ou assujettie par un démon, alors Jésus accepte volontiers de la secourir en accomplissant un miracle. Nous pouvons en conclure que Dieu refuse d'accomplir des miracles qui viseraient à convaincre les gens qui ne veulent pas croire en lui. On pourrait dire en quelque sorte que Dieu n'a rien à prouver. Il va plutôt accomplir des miracles pour fortifier la foi de ceux qui croient déjà et qui viennent humblement à lui pour lui demander de les aider.
Oui, ceci est un point intéressant, parce qu'il y a des gens qui se disent parfois « Si seulement je voyais un miracle, je croirais. »
Exactement. Mais on voit dans ce passage biblique que les choses ne marchent pas ainsi. Si les gens n'ont pas envie de croire, un miracle ne les persuadera pas plus. Et c'est pour cette raison que Jésus n'accorda pas de miracle dans la ville où il était originaire. D'ailleurs, rappelez-vous ce que Jésus annonce dans la parabole du riche et de Lazare, dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Il dit que les gens ont la Bible, à cette époque il s'agissait bien sûr de l'Ancien Testament, et qu'ils n'ont qu'à la lire. S'ils ne croient pas ce que dit la Bible, ils ne croiront pas non plus si quelqu'un reviendrait des morts pour témoigner.
Oui, c'est frappant. Quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela?
J'en vois au moins deux. D'abord, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens croient s'ils voient un miracle, et il ne faut pas s'étonner si les gens refusent de croire. Même Jésus était étonné du manque de foi des gens à Nazareth. Dieu nous donne dans la Bible tout ce dont nous avons besoin de savoir pour croire. Par exemple, nous avons quatre évangiles, écrits par quatre personnes différentes, qui témoignent que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Il faut donc lire la Bible et la partager avec les gens autour de nous, en priant Dieu qu'il leur ouvre l'esprit pour qu'ils la comprennent et croient à son message. L'autre enseignement pour nous est que si nous doutons, si nous manquons de foi, il faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Certains chrétiens désirent parfois que Dieu leur accorde des miracles pour les réconforter dans leur foi. Dieu peut bien sûr nous aider miraculeusement, et il le fait parfois. Mais il n'est pas sage de baser notre foi sur ces miracles. Il vaut mieux faire confiance à Dieu et à sa parole. La parole de Dieu contient de merveilleuses promesses. Demandons donc à l'Esprit-Saint de nous aider à lire la Bible, à la comprendre et à croire ce qu'elle nous enseigne.
Merci beaucoup Stéphane pour ces réflexions.
Stéphane sera de retour lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui pour la suite de cette série sur l'Évangile de Marc. Et sans tarder davantage, nous passons à notre méditation biblique. Après la lecture du psaume 11, Antoine nous fera part de ses réflexions.
Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter « Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes » Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux il observe, il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme épris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face.
Que faire? quand dans la vie, tout va de mal en pis. En tant que croyants, nous aspirons tant à mener une vie droite et intègre, et pourtant nous ne rencontrons qu'épreuves et difficultés. Le psalmiste parle d'ennemis. Il présente une société dont les fondements moraux et spirituels s'effondrent. Nous pouvons peut-être nous identifier à son contexte. Avons-nous des ennemis? Notre pays traverse-t-il une crise terrible? Alors que faire? Le psalmiste évoque deux possibilités. Fuir ou bien faire confiance à Dieu. Il est vrai que lorsque nous nous trouvons piégés dans une épreuve affreuse, nous aimerions tant la fuir, y échapper, comme c'est naturel. Parfois, les décisions hâtives ou manquant de sagesse, ou la fuite, peuvent nous conduire dans une situation pire encore. Car certains fuient leurs épreuves en recherchant une consolation dans l'alcool ou les relations sexuelles hors mariage. D'autres en pratiquant le mal, ou en ayant recours à la corruption, ou encore en se vengeant. Certains se retirent du monde, préférant s'apitoyer sur eux-mêmes. Et vous-même, êtes-vous tenté de fuir votre situation? Le psalmiste avait envisagé de fuir loin de tout, mais il rejeta cette tentation. Il prit plutôt la résolution de faire de l'Éternel son rocher. Lorsque les fondements de la société s'écroulent, l'Éternel demeure notre rocher, le rocher solide et inébranlable, le rocher digne de confiance sur lequel nous pouvons nous appuyer. Qu'est-ce qui fonde notre confiance en l'Éternel? Sur le fait que Dieu est juste et qu'il est souverain sur toutes les nations de la terre. Dieu est juste. Il voit les injustices que nous subissons et endurons. Dieu est juste et il n'est pas indifférent lorsque nous souffrons à cause de notre foi ou de notre intégrité. Dieu est juste et le châtiment attend le malfaiteur. Le jour de l'Éternel, le jour où il interviendra pour juger tout homme et établir la justice, semble tarder. Et cette attente n'est pas facile. Gardons toutefois cette conviction et cette confiance. Le jour viendra où le juste verra Dieu. Alors il vivra avec lui pour toujours, dans un monde où le mal et l'injustice n'existeront plus. Ne recherchons pas notre propre justice, mais attendons avec patience et confiance la justice de Dieu. Refusons tout mal et toute vengeance, et laissons Dieu agir en son temps. L'apôtre Paul nous y encourage. Ne te laisse jamais dominer par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien.
Merci Antoine pour ces conseils importants. Et merci à tous pour votre écoute. Le moment est venu de vous dire au revoir, mais nous espérons vous retrouver bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.